Chapitre 19. Dès le matin, la baronne était venue rejoindre son amie. Elle l'avait trouvée, après l'agitation horrible de la nuit, dans un état de torpeur invincible. Madame de Préfond avait parlé à Claire sans pouvoir obtenir une réponse. Les yeux fixes, la bouche crispée, le corps anéanti, la jeune femme restait accroupie sur sa chaise longue. Toute la vie semblait s'être concentrée dans le regard sombre, égaré, qui était rivé à quelque épouvantable vision. Un temps très long se passa ainsi. La sonnerie de la pendule, annonçant la marche des heures, faisait chaque fois tressaillir Claire. Sans ce mouvement, sans la clarté farouche de ses yeux, on eût pu la croire endormie. L'arrivée de son frère la tira de son anéantissement. Elle se rattacha passionnément à l'espérance de voir Philippe avant son départ. Fiévreuse, les joues marquées de deux taches rouges, d'une voix monotone et comme usée, elle chargea Octave d'obtenir de son mari cette faveur suprême. Et dès lors elle attendit, dans une reprise d'agitation éperdue, marchant sans cesse de la fenêtre, dont elle soulevait le rideau pour voir si on ne l'avait pas trompée, et si Philippe ne partait pas, à la porte, auprès de laquelle elle écoutait si elle l'entendait venir. Anxieuse, énervée, et donnant à la baronne épouvantée le spectacle de la folie envahissante. Soudain, un bruit de pas la fit reculer, comme si elle eût craint de se trouver face à face avec celui qu'elle appelait de toute son âme. Elle pâlit, un cercle noir cerna ses yeux. D'un geste, elle fit signe à la baronne de s'éloigner. Et elle resta debout, tremblante, sans voix. Philippe venait d'entrer. Ils restèrent l'un et l'autre en présence, muets. Lui, examinant avec douleur les traces que tant d'affreuses angoisses avaient laissées sur le visage de la jeune femme, elle, qui, un instant avant, avait tant de choses à dire, cherchant à rassembler ses idées, et, dans son cerveau douloureux, ne trouvant plus que le vide. Claire ne put supporter plus longtemps ce lourd silence. Elle alla vers Philippe, saisit sa main entre les siennes, et, poussant un horrible gémissement, elle la couvrit de larmes et de baisers. Le maître de forge s'attendait à une explication. Il s'était préparé à entendre des prières. L'explosion toute physique de cette douleur, qu'il savait sincère, le bouleversa. Il voulut retirer sa main, sur laquelle il sentait couler, brûlant, les pleurs de celle qu'il aimait. Il ne put y parvenir. Il frémit, se sentant sans force contre tant de faiblesse. « Claire, dit-il d'une voix basse, par grâce, vous me troublez profondément. J'ai besoin de tout mon sang-froid. Je vous en prie, calmez-vous. Soyez plus forte, ménagez-moi si vous tenez à ma vie. » À ces mots, Claire releva la tête. L'expression de son visage n'était plus la même. Elle parut avoir pris une résolution subite. « Votre vie, dit-elle, a plutôt donné 100 fois la mienne. Misérable que je suis, c'est moi qui, par mon emportement, vous ai jeté dans le danger. Est-ce que je n'aurais pas dû tout supporter? En souffrant, j'expiais mes torts envers vous. Et dans une minute d'emportement, j'ai tout oublié. Mais ce duel est insensé. Il n'aura pas lieu, je saurai l'empêcher. » « Et comment ? » demanda Philippe, le sourcil déjà froncé. « En sacrifiant mon orgueil à votre sécurité, répondit Claire. Oh, rien ne me rebutera puisqu'il s'agit de vous. Je m'humilierai devant la duchesse s'il le faut, j'irai trouver le duc. Il en est temps encore. » Les traits du maître de forge se contractèrent. « Je vous le défends, dit-il avec force. Vous portez mon nom, ne l'oubliez pas. Toute humiliation supportée par vous m'atteindrait moi-même. Et puis, enfin, comprenez donc que je le hais, cet homme qui a été cause de mon malheur. Depuis un an, je rêve de me trouver face à face avec lui. Ah, croyez-moi, ce jour est le bienvenu. » Claire baissa la tête. Depuis longtemps, elle avait pris l'habitude d'obéir quand Philippe commandait. Lui, calmé par cette violente sortie, reprit avec douceur « J'apprécie vos intentions et je vous en suis reconnaissant. Il y a eu, entre nous, au début de notre existence commune, un malentendu qui nous a coûté à l'un et à l'autre bien des peines. Je ne vous en fais pas seul responsable. Il y a eu de ma faute. Je n'ai pas su vous comprendre. Je n'ai pas su me sacrifier. Je vous aimais trop. mais je ne veux pas m'éloigner en vous laissant la pensée que j'ai conservée pour vous de la rancune. Vous pouvez être en paix, Claire. À votre tour, pardonnez-moi le mal que je vous ai fait et dites-moi adieu. » À ces mots, le visage de Claire resplendit. Étendant les mains vers le ciel dans un élan de reconnaissance passionnée, « Vous pardonnez, moi ? » s'écria-t-elle. « Mais vous ne voyez donc pas que je vous adore ? Vous ne l'avez donc pas deviné depuis longtemps dans le trouble de ma voix, dans l'égarement de mes yeux ?» Elle s'était approchée de Philippe et, lui nouant ses beaux bras autour du cou, elle roulait sa tête blonde contre son épaule, l'enivrant de son parfum, le brûlant de son regard. Elle parlait maintenant comme en un rêve. « Ah, ne pars pas, si tu savais comme je t'aime, reste là, près de moi, tout à moi. Nous sommes si jeunes, nous avons tant de temps à être heureux. Que t'importe cet homme et cette femme qui nous haïssent, nous les oublierons. Partons, veux-tu, loin d'eux. Là, ce sera le bonheur, la vie et l'amour. » Philippe détacha doucement le bras qui l'enlaçait et, éloignant Claire, « Ici, dit-il simplement, c'est le devoir et l'honneur. » La jeune femme poussa un gémissement. La réalité effrayante l'avait ressaisie. Elle revit, en un instant, le duc, le pistolet au poing et riant, l'air mauvais. Elle voulut s'élancer, faire un dernier effort, retenir Philippe malgré lui. Elle cria « Non, non !» Au même moment, la porte s'ouvrit et Octave parut. Il adressa à Philippe un signe de tête et se retira. Claire comprit que l'instant du départ était venu. Ce fut comme si un voile qui obscurcissait son esprit avait été déchiré. Elle comprit que tout était fini. Et, s'abattant sur la poitrine de son mari, elle le serra une dernière fois avec une force convulsive. « Adieu !» murmura le maître de forge. « Oh, ne me quittez pas ainsi, pas sur ce mot glacé ! Dites-moi que vous m'aimez ! Ne partez pas sans me l'avoir dit !» Philippe demeura inébranlable. Il avait avoué qu'il pardonnait, il ne voulut pas dire qu'il aimait. Il éloigna Claire de lui, marcha vers la porte et, sur le point de sortir, « Priez Dieu que je revienne vivant, » dit-il, lui jetant dans ses mots comme un suprême espoir. Ce fut tout. La jeune femme poussa un cri qui fit accourir la baronne. La voiture qui emportait le maître de forge roula sourdement dans l'avenue. Claire, sans se préoccuper de la présence de la baronne, se laissa retomber sur sa chaise longue, la tête enfouie dans les coussins, ne voulant plus ni voir ni entendre, rêvant de suspendre sa vie pendant l'heure terrible qui allait s'écouler. Elle resta ainsi quelques instants. Une douce voix la fit se relever brusquement. Suzanne, frappant à la porte, disait « Peut-on entrer ?» Claire échangea un douloureux regard avec la baronne. Il allait falloir encore dissimuler, s'efforcer de tromper cet enfant, ignorante de la vérité. Par la porte entr'ouverte, le frais et gai visage de Suzanne apparaissait. « Viens, mon enfant !» dit Claire. Et, prodige de volonté, elle se fit souriante. « Comment, vous n'êtes pas habillée ? » s'écria la jeune fille en voyant sa belle-sœur vêtue d'un peignoir. « Moi, j'ai déjà fait tout le tour du parc avec la petite voiture. » Suzanne parcourut la chambre, fourrageant partout avec une vivacité de jeune chat. « Tiens, fit-elle, je viens de rencontrer Philippe avec le baron et Monsieur Octave. Ils étaient en voiture fermée. Ils avaient un air singulier. Où peuvent-ils bien aller ainsi, tous les trois ?» Claire rougissait et pâlissait tour à tour. Une sueur d'angoisse perlait sur son front. Chaque parole de Suzanne la torturait. « Oh, si mon mari est là, dit la baronne, c'est qu'il s'agit d'une expérience, quelques visites dans les carrières. »« De quel côté se dirigeait-il ? » demanda Claire d'une voix tremblante. « Du côté des étangs, répondit la jeune fille. Peut-être vont-ils à la Varenne. » « Oh non, dit la baronne, le duc de Bligny n'est pas homme à se lever avant 10 heures. » Claire n'entendait plus. « Du côté des étangs, avait dit Suzanne. » Aussitôt, la clairière, avec son tapis de gazon, ses barrières peintes en blanc et, dans le fond, les eaux dormantes sous les branches penchées des arbres, avait passé devant ses yeux. Ce lieu, solitaire et morne, était propice pour une rencontre. Il avait un aspect désolé qui le destinait à quelques scènes tragiques. C'était là que le duc et Philippe allaient se battre. Elle en était sûre, elle les voyait. Elle fut reprise d'une agitation effrayante, entraînée par le besoin de savoir. Elle ne put rester en place. Elle prit une robe et la passa à la hâte. Un projet, aussitôt arrêté que conçu, venait de tendre tous les ressorts de sa volonté. « Tu t'es servi de la petite voiture ?» dit-elle à Suzanne. « Où l'as-tu laissée ?»« Dans la cour des écuries, » répondit la jeune fille. « On doit la dételer en ce moment. » « Je vais la prendre. J'ai une course à faire ce matin dans le pays, » reprit vivement Claire. Et sans rien attendre, une écharpe de dentelle sur sa tête nue, elle s'élança au dehors. Seule, conduisant d'une main hardie, elle partit à une allure très rapide. Le mouvement, loin de calmer sa fièvre, la surexcita. Elle eut la frénésie de la vitesse, mettant sa bête au galop, secouée durement dans les ornières d'une route de forêt, menacée de tout briser. Elle ne s'arrêta devant rien, augmentant la violence de sa course, tous les nerfs raidis, se mordant les lèvres, enviant les ailes des oiseaux, et écoutant, la respiration coupée par les battements de son cœur, si, dans le silence des bois, elle n'entendait pas une sinistre détonation éclater. La forêt restait silencieuse. Dans le lointain, les grelots des voitures, passant sur la grande route, tintaient joyeusement. Le tapis de mousse de l'allée s'étendait sous les pas du cheval, assourdissant le bruit de ses pas. Une épaisse vapeur sortait de ses flancs, l'entourant d'un nuage. Lancé avec rage, il buta et s'abattit. Claire sauta à terre et prit sa course à travers bois. Son instinct l'avertit qu'elle approchait du but. Elle écouta et entendit qu'on parlait. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. À 20 pas, au bord des étangs, le kiosque chinois de M. Moulinet se dressait, mirant dans l'eau ses plaques de porcelaine. De là, Claire pouvait voir sans être vue. Légère comme une biche traquée, elle se glissa au travers des branches et, montant les marches qui conduisaient à la galerie circulaire, elle s'arrêta, anxieuse, épouvantée. Au milieu du rond-point, le baron, faisant de longues enjambées, comptait des pas pour marquer la distance. La Brède, assistée de Moulinet, pâle et égarée, chargeait les armes. Philippe, à l'autre bout de la clairière, marchait lentement en causant avec Octave et le médecin. Le duc, à 3 pas du kiosque, mâchonnait un cigare en abattant machinalement avec un petit jonc qu'il tenait à la main de hautes tiges de digital. Claire se rappela, avec un horrible serrement de cœur, le rond-point couvert de cavaliers, avec les groupes de jeunes femmes élégamment parées et le buffet servi par les graves valets de pied de la Varenne. Tout ce jour-là était gai, brillant, heureux. Elle était jalouse alors, mais qu'était-ce que sa jalousie auprès de la torture qu'elle endurait en ce moment? Elle avait sous les yeux ces deux hommes qui allaient chercher à se tuer pour elle. Dans un instant, l'un d'eux serait étendu dans l'herbe verte. Un nuage passa sur ses yeux. Elle dut se retenir à la balustrade pour ne pas tomber. Sa faiblesse fut de courte durée. Elle regarda de nouveau, haletante, avec une horrible curiosité. Les deux adversaires étaient maintenant en place. M. Moulinet venait de s'écrier d'une voix suppliante « Messieurs, par grâce, messieurs !» Il avait été entraîné par la Brette qui le semonçait sévèrement dans un coin. Octave remit à Philippe son arme et se recula vivement. La Brette demanda d'une voix ferme « Messieurs, êtes-vous prêts ?» Le duc et Philippe, ensemble, répondirent « Oui !» Le jeune homme reprit, comptant lentement « 1, 2, 3, feu !» Claire vit les deux pistolets s'abaisser menaçant. Dans cette seconde suprême, elle perdit la raison. Un mouvement invincible la jeta en avant, elle poussa un cri, franchit d'un bond les marches du kiosque et se ruant au-devant du coup qui menaçait Philippe, elle boucha dans sa blanche main le canon du pistolet de Bligny. Une détonation éclata. Claire devint pâle comme une morte. Et, agitant avec ivresse sa main labourée et sanglante, elle éclaboussa de larges taches rouges le visage du duc. Puis, poussant un profond soupir, elle tomba évanouie. Il y eut un moment de confusion indescriptible. Le duc avait reculé plein d'horreur en sentant tomber sur lui cette pluie chaude et vermeille. Philippe, d'un bond, avait saisi Claire et, la soulevant comme il eût fait d'un enfant, il l'avait portée dans la voiture qui attendait au détour de la route. Les yeux de la jeune femme étaient fermés. Anxieusement, le maître de forge, aidé par le médecin, souleva la pauvre main mutilée. Il baisa avec adoration cette chair qui souffrait pour lui. Très assombri, le médecin, avec une adresse de femme, avait manié le bras de Claire. « Rien de brisé, » dit-il enfin avec allègement. « Nous en sommes quittes, à meilleur compte qu'on ne pouvait l'espérer. La main, il est vrai, sera bien abîmée, mais Madame d'Herblay s'en tirera en n'ôtant point ses gants. » Il se mit à rire, retrouvant son sang-froid d'opérateur. Puis il arrangea les coussins de la voiture pour que la jeune femme fût bien à l'aise. Philippe, encore bouleversé, ne quittait pas Claire du regard. Son évanouissement prolongé l'inquiétait. Le baron, en l'appelant, le ramena à la situation. La Brède, très agitée, accompagnait monsieur de Préfond. « Je suis chargé, monsieur, par le duc de Bligny, de vous exprimer son profond regret du malheur dont il est la cause bien involontaire. L'accident arrivé à madame d'Herblay l'afflige gravement et ses idées se trouvent fort modifiées. Il lui paraît maintenant impossible de donner suite à l'affaire engagée. Le courage de mon ami est au-dessus de toute discussion. Le vôtre également, monsieur. Nous sommes tous gens d'honneur. Le secret de ce qui vient de se passer sera fidèlement gardé. » Le maître de forge dirigea ses regards vers le duc. Bligny, tremblant et livide, adossé à une barrière, essuyait machinalement son visage. Et chaque fois, avec un écœurement douloureux, il ramenait la fine batiste marquée d'une tache rouge. Il pensa que sa balle aurait pu atteindre Claire mortellement, briser son beau front ou trouer sa blanche poitrine. En cet instant, il se jugea sévèrement, eut horreur de ce qu'il avait fait et résolut de s'écarter à jamais de la route de celle qui, à cause de lui, avait tant souffert. La Brède continuait à parler à Philippe avec une émotion qui ne lui était pas habituelle. Le maître de forge entendit vaguement que le jeune homme lui témoignait ses regrets personnels. Il se laissa serrer, par lui, la main avec vigueur. Et, voyant le duc qui s'éloignait, entraîné par Moulinet, il poussa le médecin dans la voiture, monta sur le siège, prit les guides et partit rapidement. Dans la grande chambre tendue de vieilles tapisseries sur lesquelles de jeunes déesses emplissaient la coupe des guerriers, comme pendant la longue maladie de Claire, Philippe, silencieux, était assis au pied du lit. La jeune femme, en proie à la fièvre, n'ayant pas encore repris connaissance depuis une grande heure, s'agitait sur son oreiller. Elle ouvrit les yeux. Son regard vague chercha Philippe. Le maître de forge se leva vivement et se pencha vers elle. Un sourire passa sur les lèvres de Claire. De son bras nu, elle entoura le cou de son mari et l'attira tendrement. Dans son cerveau troublé, la notion exacte des choses n'était pas encore revenue. Il lui semblait flotter, immatériel, dans des espaces célestes. Elle ne souffrait pas. Une langueur délicieuse l'avait envahie. Si bas que Philippe l'entendit à peine, elle murmura « Je suis morte, n'est-ce pas, mon bien-aimé, et morte pour toi. Que je suis heureuse, tu me souris, tu m'aimes, je suis dans tes bras. Que la mort est douce, et quelle adorable éternité !» Soudain, le son de sa voix la réveilla. Une douleur aiguë lui traversa la main. Elle se rappela tout, son désespoir, ses angoisses et son sacrifice. « Non, j'existe !» s'écria-t-elle. Elle repoussa Philippe et, le regardant éperdu, comme si sa vie ou sa mort allait se décider par une parole. « Un seul mot, dit-elle, réponds. M'aimes-tu ? » Philippe lui montra un visage rayonnant d'ivresse. « Oui, je t'aime, répondit-il. Il y avait deux femmes en toi. Celle qui m'a fait tant souffrir n'est plus. Toi, tu es celle que je n'ai jamais cessé d'adorer. » Claire poussa un cri, ses yeux s'emplirent de larmes, elle s'attacha désespérément à Philippe, leurs lèvres se touchèrent, et, dans une extase inexprimable, ils échangèrent leur premier baiser d'amour.